With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bon, on va encore parler de Elon Musk et Twitter. Posément, calmement, pas trop longtemps, mais on va en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, une émission où on résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je vais vous dire honnêtement, en préparant l'émission jusqu'à il y a quelques heures à peine, je me disais l'énorme sujet de la journée, ça va être Netflix en crise. Et évidemment, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Et donc forcément, ça devient le sujet principal, il n'y a pas moyen de l'éviter. On en a parlé une heure la dernière fois. Je vous promets qu'on ne va pas faire la même. On va faire plus court, on va faire plus posé, et on va faire plus synthétique et analytique. Mais il faut évidemment, on ne peut pas l'éviter. Il y a aussi le Digital Services Act qui est un petit peu lié à ce rachat. Donc ça va faire une grosse partie. On aura aussi, bien sûr, l'énorme changement chez Netflix qui est un petit peu... C'est vraiment la fin de la fête. Et puis le reste de l'actu, évidemment. Avant ça, un immense merci à Indira Pérez Alvarez et... le producteur de cet épisode, qui est Stéphane Nioret. Ils vont évidemment avoir droit à leur petit... Ils ont, font partie de ceux qui financent le Rendez-vous Tech. Et donc, un grand merci à tous les deux, Indira, et celui ou celle d'ailleurs, qui a rejoint le groupe, la famille des Patriotes, depuis la semaine dernière. Je vais lui faire en plus... merci. C'est avec grand plaisir que... Je reçois votre contribution, votre vote pour le Rendez-vous Tech. En parlant de Patriot, on aura un petit after show, je pense, où je vais parler un petit peu de la manière, de la manière dont j'ai vécu la présidentielle sur Internet. Et si certains des Patriotes du niveau 2 veulent me rejoindre pour cet after show, on va pas parler de forcément de résultats, d'orientation politique, tout ça, mais comment ça s'est passé sur Internet pour la soirée du deuxième tour, et puis d'une manière générale, comment ça a été retransmis sur le net, comment ça s'est vécu peut-être différemment de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Donc ça sera pour l'after show pour les Patriotes. Mais pour le moment, on a deux invités de prestige qui ont... Alors, on parlait avant de lancer l'émission. Je ne sais pas si vous avez tiré le gros lot pour venir pour parler de Elon Musk et Twitter. Mais alors, on va commencer par les présentations. On a Laetitia d'un côté, l'animatrice du Café de l'e-commerce. Bonjour Laetitia, merci de revenir dans le Rendez-vous Tech. Comment vas-tu ?
Bonjour Patrick, merci de cette deuxième invitation. Je suis très honorée. J'avais vraiment apprécié la première fois. Et puis je crois que c'est des sujets dont on avait déjà...
Attends, excuse-moi, il y a pas de bol qui a fait un don, qui est devenu patriote en direct là, tout de suite. Donc on a eu l'alerte sur Twitch, c'est incroyable, merci beaucoup Padbol. Du coup, on remercie aussi Padbol d'être Padbol. Patriote, merci beaucoup.
ça a marché. Non, mais je suis ravie, et puis super sujet, donc merci beaucoup. Effectivement, j'anime le podcast Le Café de l'e-commerce à raison d'une fois par semaine, le vendredi, avec Adrien Naem.
Tout à fait. Et puis, on a aussi Mathieu Dos Santos qui est là avec nous. Lui aussi, on va voir si on a tiré le gros lot ou pas, franchement. C'est marrant, hein, cette attitude qu'on a par rapport à ce culte de la personnalité d'Elon Musk et de tout ce qu'il fait. On va en parler, mais bienvenue Mathieu. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu es content ou pas content d'être là pour celui-là ?
Alors, d'être en ta compagnie et de pouvoir participer au Rendez-vous Tech, c'est toujours un immense privilège pour moi, vraiment, je le dis en toute sincérité. Je te cache pas que quand j'avais commencé à regarder le conducteur qui a été fait un peu en amont, j'étais déjà un petit peu flippant, mais là, il est devenu vertigineux avec une somme de sujets très complexes. Et d'ailleurs, dans mes souvenirs, je me souviens que je m'étais déjà tapé quand même des choses assez compliquées où on était revenu, tu sais, sur, on va dire, l'optimisation fiscale, des choses comme ça. Moi, ouais. Je suis souvent invité pour des trucs un peu costauds. J'espère que le chat sera indulgent. J'ai beaucoup travaillé les sujets jusqu'à très tard dans la nuit, jusqu'à très tôt ce matin. pour essayer de ne pas paraître trop ridicule et essayer d'apporter une pierre à l'édifice à ce rendez-vous tech. Voilà,
écoute,
en tout cas, merci beaucoup.
Je suis sûr que ça va très bien se passer. On dit dans la chatroom, pas de bol, vient de racheter notre Patrick. Écoutez, il faut avouer que racheter notre Patrick, c'est quand même beaucoup moins cher que Elon Musk rachète Twitter. Donc, tout est possible. On ne sait jamais. Et puis, tant qu'à se faire racheter, je préfère me faire racheter par les Patriotes que par Elon Musk, j'avoue. Alors, comment on va aborder ce sujet? On va essayer, comme je le disais en intro, avec humour. On ne va pas faire la même que la semaine dernière. On va être un petit peu plus synthétique, un petit peu plus posé. Mais je voudrais quand même faire un petit résumé de la situation, de pourquoi elle déchaîne tellement les passions et de ce qu'on craint et de ce qui risque de se passer. Alors, je vais faire un petit monologue, je vais essayer de ne pas faire trop long. J'ai préparé, comme je le fais rarement, mais parfois j'ai besoin d'écrire quand même directement ce que je vais dire, ou au moins des petits bullet points. Et donc, je vais faire ça et puis après, on va en discuter. Oh ! Koyanis Kasti, qui a également rejoint le Patreon. Merci beaucoup à toi aussi. Ça marche comme sur Twitch, comme avec les vrais. Alors, ceux qui écoutent ça en podcast, ils disent, mais c'est bon, lâche-nous avec ton histoire, on veut entendre parler de Elon Musk et Twitter. Mais c'est l'interaction en direct, vous voyez, c'est le web 2.0, l'interaction en direct. Merci beaucoup, merci Koyanis Kasti, Kasti Ava. Donc, merci à toi. Alors, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Ça traînait depuis pas si longtemps que ça. Hein. Il a commencé à en parler sérieusement il y a à peu près 3 semaines. Donc, ça s'est fait assez vite. Il a réuni un capital d'investisseurs et du capital personnel, notamment en mettant en contrepartie du potentiel des actions de Tesla. Donc, il a mis en collatéral. Il y a plusieurs points à apporter, au-delà du financement qui est important aussi, mais le premier point que je veux aborder, c'est la question du problème. Pourquoi est-ce que ça pose tant de problèmes que ce soit Elon Musk qui rachète Twitter plutôt qu'un autre? L'un des éléments essentiels à comprendre, c'est que Elon Musk est politiquement, et oui, il faut forcément parler de politique dans ce débat, il est libertarien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être libertarien? Ça veut dire qu'on veut aussi peu de règles que possible, aussi peu de lois et d'interventions du gouvernement que possible, avec une philosophie générale qui est « c'est le marché qui se démerde, tout ça, ça s'équilibre, tout va bien aller, on n'a pas besoin d'intervention, de régulation de l'État ». Il est aussi un « free speech absolutist », c'est-à-dire qu'il croit à la liberté de parole au maximum, c'est-à-dire qu'il faut tout laisser dire. Et évidemment, le problème, c'est que dans une conversation entre amis autour d'un café, on peut peut-être tout dire, on ne va pas envoyer la police à chaque fois qu'il dit quelque chose, et à l'échelle des réseaux sociaux, eh ben, ce n'est pas le même problème. C'est-à-dire que souvent, sur les réseaux sociaux, on a coopté le terme free speech pour en réalité dire on veut avoir le droit de donner toute la désinformation et le chaos qu'on peut. Et c'est souvent sur ce point qu'on s'accroche dans ces discussions, parce que certains disent la liberté de parole, c'est bien. Comment peut-on être contre la liberté de parole? Et effectivement, sur le papier, on le comprend. Mais dans la réalité, ce qu'on a constaté, c'est que c'est un petit peu l'extrême droite américaine et les suprémacistes qui ont coopté ce terme pour pouvoir avoir le droit de dire sans conséquence leur désinformation et d'inonder les réseaux avec des avis contradictoires pour un petit peu paralyser. Le résultat, c'est que ça paralyse les gens, ça paralyse les opinions. Et c'est l'un des points sur lesquels on s'était accroché avec Benoît, et c'est vrai que j'ai essayé de le reprendre peut-être un petit peu trop, ou en tout cas je l'ai interrompu, je l'avoue, parce que c'est une idée qui est séduisante intellectuellement de dire la liberté de parole, mais ce qu'on a constaté à de nombreuses reprises, c'est que ce n'est pas une orientation politique, donc une vraie liberté de parole qu'on demande et que demande la droite et l'extrême droite américaine, et d'ailleurs c'est repris par l'extrême droite en France et ailleurs, c'est le droit à répandre de la désinformation, et ça a été montré par de plusieurs études, parce qu'on veut savoir en fait quelles sont les conséquences de ces choses-là, mais ça a effectivement été montré par plusieurs études. Il y en a encore eu une il y a quelques jours qui montrait que ce n'est effectivement pas l'orientation politique qu'on modère sur les réseaux sociaux, mais vraiment la désinformation. Quand on modère plus aux États-Unis, encore une fois, la droite que la gauche, on modère la droite quand elle dit des choses qui sont du registre de la désinformation, et la gauche, on le constate, enfin la gauche ou le centre, ce qui n'est pas l'extrême droite finalement, en utilise moins. Et les conséquences que ça a, c'est les conséquences de ce type de désinformation. On le voit par exemple sur les événements du 6 janvier aux États-Unis au Capitole, le fait de nier le changement climatique ou le fait de désinformer sur l'épidémie de Covid-19. Donc ça a des conséquences vraiment réelles, concrètes sur la société. On ne peut pas juste dire c'est que des paroles et ça n'a pas de conséquences. À l'échelle des réseaux sociaux, ça en a. Donc ça, le problème de Elon Musk qui se présente comme un free speech absolutiste, ça remet sur le devant de la scène la question de si on laisse tout dire n'importe comment en modérant le moins possible, eh ben, ça pose des problèmes. Des problèmes concrets à la société. Maintenant, il ne faut pas nier que c'est une question avec laquelle on a beaucoup de problèmes de conscience. C'est-à-dire que personne, et c'est important, personne ne met en place ces modérations à la légère. C'est des choses qu'on a mis en place après des années et des années d'expérience avec les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux y sont arrivés pour les mêmes raisons, et c'est ce que disait d'ailleurs le fondateur de Reddit dont on parlait la semaine dernière. La réalité, c'est qu'on est obligé de modérer parce que sinon ça part en vrille, on va dire. C'est quelque chose de ce type-là. Et puis, il y a un autre problème qui est que Elon Musk n'est pas simplement quelqu'un qui rachète un média, on va dire un journal, et il y a plein de journaux différents. Twitter est effectivement de fait une sorte de place publique et ce milliardaire va racheter Twitter et diriger la société. C'est pas qu'il y a une séparation entre l'argent, on va dire la publicité souvent quand on parle de presse, et l'exécutif ou les journalistes. C'est que là, il va effectivement diriger la boîte, donc il pourra l'influencer selon son désir ou selon ce qu'il ses priorités économiques, politiques, etc. Et justement, on en vient à la personnalité d'Elon Musk, qui est, il faut bien l'avouer, un petit peu le sale gosse d'Internet, qui est évidemment aussi une sorte de personnalité géniale qui a fait des choses que personne d'autre n'aurait pu faire, que personne d'autre n'a pu faire au niveau des véhicules électriques, qu'il a complètement réorienté toute une industrie qui était clairement empêtré dans sa manière de faire les choses, évidemment pour l'exploration spatiale, etc. Mais il est un petit peu le bully de cour d'école, il shitpost sur Twitter tout le temps, et puis lui, bah, il s'en fout un petit peu parce qu'il n'a pas besoin de ces règles dont il ne veut pas. Ce n'est pas pour lui qu'elles sont écrites, ce n'est pas lui qu'elles sont censées protéger. Lui, il est dans une situation où il n'a pas besoin de ces règles. Donc dire bah moi, les règles, j'en veux pas, c'est facile, parce que c'est pas à lui qu'elles sont censées s'appliquer. La manière dont je le décris, Elon Musk, c'est un peu 4chan avec un business plan. Elon Musk, c'est le shitposter en chef, le chef de une sorte de leader d'un culte d'Elon Musk qui s'amuse à tweeter un peu tout et n'importe quoi. Il y a un bel article de Numérama, justement, qui résume tous les problèmes qu'il a posés sur Twitter au cours des dernières années. Et donc, oui, sa personnalité est évidemment à prendre en compte dans la discussion sur le fait qu'il devienne désormais le actionnaire, même pas principal, mais en fait, Twitter est désormais une société privée possédée par Elon Musk avec des fonds tirés de différents endroits. Donc voilà, sa personnalité est indissociable de l'analyse de Twitter. Pour ce qui est des conséquences, eh ben on ne sait pas ce qui va se passer. Pardon, je tape sur mon micro d'excitation. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Trump va revenir sur la plateforme ? Il a dit non, mais dans quelques mois, quand Truth Social n'ira nulle part, si Twitter lui redonne son compte, peut-être qu'il y reviendra. Est-ce que les fermatrolls du Kremlin ou d'ailleurs vont avoir plus de liberté pour agir ? On ne sait pas. On ne sait pas comment ils vont gérer la modération. Twitter, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, Twitter, c'est déjà la merde, donc ça ne peut pas être plus la merde. » Bah si, ça peut être beaucoup plus la merde. Il y a déjà une modération, même si vous ne la voyez pas. Il y a une modération qui est relativement stricte sur Twitter. Il y a des labels qui sont appliqués, des tweets qui sont moins diffusés quand ils sont considérés comme problématiques, etc. Elon Musk dit qu'il veut authentifier tous les humains, donc avoir un petit checkmark pour tous les vraies personnes qui seront identifiées comme des vraies personnes. Ça pourrait, si c'était possible, régler le problème des bots et des fermes de trolls. Mais on sait bien que c'est impossible d'identifier effectivement tout le monde. On ne va pas demander la pièce d'identité de tout le monde. Et même si c'était le cas, il serait largement possible de contourner un système d'authentification. Il veut aussi open sourcer l'algorithme, ce qui donnerait plus de transparence selon lui. Alors oui, mais open sourcer un algorithme, donc permettre à tout le monde de voir comment il fonctionne, ça permet aussi de jouer avec et de l'exploiter autant que possible. Donc ça aussi, il n'est pas garanti que ça soit une bonne stratégie. La réalité, c'est que pour tous ces problèmes de modération, il va être confronté à la loi parce qu'il y a certains pays, notamment en Europe, on a le Digital Services Act dont on va reparler dans un moment, qui impose certaines choses et qui va sans doute arriver dans la loi dans les années à venir. Mais même au-delà de ça, en Europe et en France, on a des règles, des lois qu'il faut suivre qui imposent une certaine modération aux réseaux sociaux, qui impose une modération sans intervention juridique. C'est-à-dire que même si un juge n'est pas allé dire « il faut faire ceci ou cela », il y a une sorte d'effort de foi, comment dire, « good faith effort », c'est-à-dire on fait de notre mieux, mais vraiment, pour essayer d'éviter des choses qui seraient manifestement illégales, même s'il n'y a pas eu de condamnation. Et ça, on ne sait pas très bien comment il va le gérer avec sa profession de foi absolutiste de la liberté de parole. Une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'il fait ce rachat ? Et ça, alors on ne sait pas vraiment, c'est difficile à dire. Peut-être l'explication la plus simple qui est celle qu'il donne, c'est qu'il y a une opportunité de business. C'est-à-dire qu'il pense que le potentiel de Twitter n'est pas exploité et qu'il peut en faire beaucoup d'argent. Et bon, ça c'est tout à fait possible, mais il y a aussi des questions sur le fait de protéger l'influence qu'il a à partir de Twitter. Je le disais, c'est le shitposter en chef. À chaque fois qu'il fait un tweet, ça peut influencer. Alors, beaucoup de gens, mais aussi des marchés, par exemple. Il a fait de l'argent en faisant des tweets, en disant « je vais peut-être acheter Tesla à 420 $ l'action ». Et bien, l'action est montée en flèche. Il a été sanctionné par les autorités américaines. D'ailleurs, il n'a pas forcément suivi les sanctions qui ont été imposées. C'est en ça que je dis, c'est un petit peu quelqu'un qui ne suit pas, qui considère que les règles ne s'appliquent pas à lui. Il y a aussi l'idée d'une entrée en politique, peut-être. En même temps, il est sud-africain, donc il ne peut pas devenir président des États-Unis, mais peut-être qu'il peut chercher à faire élire quelqu'un, on ne sait pas. Bon, ça, c'est très, très, très hypothétique. Mais ce qui est à retenir, c'est que pourquoi le rachat ? Bah, c'est un petit peu difficile. Peut-être que vous aurez tous les deux des idées brillantes pour nous l'expliquer. Beaucoup de gens ont dit « moi, je quitte Twitter, je vais sur Mastodon ». Alors, laissez-moi doucement rigoler, personne ne va quitter Twitter. Enfin, si, il y a peut-être des gens qui vont le faire, mais Mastodon, à moins qu'il y ait des changements massifs et très dommageables sur Twitter, enfin, ce n'est pas complètement impossible. Mais non, Twitter est là pour rester et quelle que soit la manière dont il va changer, il y a peu de chances que les gens se reportent sur un autre réseau. On verra si ça se produit. Et puis bon, j'ai été quand même majoritairement négatif jusque-là. Vous sentez arriver, vous le voyez, il est en train de marcher là. Il faut à un moment que je me transforme en mon alter ego et on présente tout de suite. Voilà, il est là, l'avocat du diable. Il faut avouer que Twitter est quand même un réseau qui a stagné depuis très longtemps, qu'il n'a pas évolué ni dans ses fonctionnalités, ni dans la croissance des utilisateurs, l'utilisation. Donc, il est possible qu'il y ait des moyens de le faire changer, et de le faire changer de manière peut-être positive, ajouter des choses, enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a potentiellement un potentiel latent dans Twitter que Elon Musk pourrait réussir à exploiter. Et je dois bien être obligé de l'avouer, si je suis un tout petit peu honnête. Oui, il y a certainement des choses à faire avec Twitter. Moi, ce n'est pas tellement pour le produit que pour la philosophie que je suis inquiet. Et après ce long monologue, du coup, je vais vous laisser la parole. Peut-être, Mathieu, je vais te poser la question en premier. Bon, j'ai résumé un petit peu tout ça. Est-ce que tu partages mes inquiétudes et est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des opportunités et que ça serait qu'il est temps que quelqu'un reprenne Twitter en main et fasse de cette place publique quelque chose d'un petit peu plus performant ?
Ah, en vrai, moi, je suis assez 50-50. En fait, je vois bien que Elon Musk est quelqu'un qui cristallise beaucoup, mais c'est un peu le cas comme tous les, on va dire, les personnes très influentes dans ce monde. Hein. Je pourrais te faire le parallèle avec un Cristiano Ronaldo aussi, tu vois, dans une moindre mesure, qui est un footballeur aussi qui cristallise autant la sympathie de certains, mais autant aussi il est détesté par d'autres. Et c'est un peu ça. Le vrai symbole là-dedans, c'est que Elon Musk donne quand même l'impression de racheter Twitter comme si c'était un peu un jouet. Quand on regarde un petit peu les réactions des gens, on a l'impression que c'est un petit peu Voilà, il s'est pris comme ça, il s'est dit, tiens, il s'est levé un matin, il s'est dit, tiens, je vais acheter Twitter. Alors, on sait que ce n'est pas vraiment vrai, parce que depuis le 28 janvier, en fait, il a déjà commencé à placer ses pions. On sait que déjà, au mois de mars, il avait acheté 2,9 milliards de dollars en actions, qu'il avait donc récupéré, il était devenu le premier actionnaire avec 9%, et que du coup,
Non, mais c'était il y a 3 semaines,
il a
ça. C'était il y a 3-4 semaines. Voilà. Ça s'est fait très, très, très vite. Hein. Et l'analogie du jouet, je pense, est assez, assez juste. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. C'est genre, oh, j'aimerais bien avoir Twitter. Combien ça coûte? 44 milliards? Ok, bon, allez, je vais acheter Twitter. Ça va être sympa. C'est
ça.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont énervés, quoi.
Bah voilà, il y a du coup, il y a les gens qui ne supportent pas Elon Musk, comme tu l'as si bien déjà résumé en long et en large, par ses activités même sur Twitter. Twitter et comme je le disais avec le chat, on parlait avec le chat, c'est quand même le haut-parleur, je trouve, du monde. Alors, je suis d'accord avec la personne qui disait dans le chat, Twitter ne représente pas le monde, mais quand on reprenait par exemple les tweets, ne serait-ce que d'un Donald Trump qui menaçait le dictateur nord-coréen, ça faisait un peu trembler tout le monde. En fait, c'est un incontournable, hein, Twitter, hein, que ce soit pour les entreprises, les hommes politiques, les militants, les stars, et c'est pour moi. Quand je dis haut-parleur, c'est pas que c'est représentatif, mais que ça a un pouvoir. En fait, si vous êtes personne, Twitter vous offre quand même une formidable manière de pouvoir parler. Et du coup, en fait, même des fois, les gens qui n'ont pas Twitter ont connaissance des tweets. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs d'Elon Musk, hein, qui est souvent cité dans les médias traditionnels, dans les médias d'information, qui vont également sur Twitter pour faire de l'information et pour voir un petit peu ce qui agite les foules. Donc il y a ce côté un petit peu, voilà, où la manière dont il l'utilise aussi n'attire pas forcément toujours la sympathie des gens. Il y a quand même un débat de fond aussi autour de ça.
Sur ce point, j'insiste, je trouve que tu as tout à fait raison. C'est le vecteur de communication le plus puissant qu'on ait aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que de un vers plusieurs. C'est-à-dire que si on dit quelque chose sur Twitter, ça va être repris dans tous les médias, dans le monde entier, dans toutes les langues, et il n'y a pas d'autres vecteurs de communication qui soient aussi puissants. Même quand on parle de Instagram, TikTok, Facebook, etc., c'est des trucs qui sont de plusieurs à plusieurs, ça ne va pas être repris autant que ce qu'on dit sur Twitter. Alors ça peut changer, mais la situation aujourd'hui, elle est comme ça. Donc ça a une influence indéniable.
Voilà, d'ailleurs, il y a Tuto dans le chat qui le dit très bien, on l'a vu dans le débat présidentiel, on peut aussi exposer des tweets imprimés en A4 sur un plateau de télé, donc ce qui montre bien qu'en fait, Twitter, qu'on le veuille ou non, est présent dans nos vies. Et d'ailleurs, le parallèle est très très juste, je pense qu'on aurait une réaction un petit peu moins, on va dire, soit épidermique, soit d'ailleurs d'excitation, ça dépend d'où on se situe, si par exemple il avait racheté Instagram. Je pense que ça n'aurait pas eu du tout le même impact. Et c'est là où Twitter est assez dingue, c'est que Twitter, économiquement parlant, ça n'a pas un modèle économique qui tient la route, en tout cas. Pour le moment, ça ne rapporte pas grand-chose. Mais le potentiel, et c'est ça, je pense, qui plaît à Elon Musk, le potentiel, voilà, de faire du brouhaha, on va dire, dans le monde. Et ce qui fait qu'il adore cette plateforme, d'ailleurs. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est que paradoxalement, tu vois, tu dis que c'est un jusqu'au boutiste et que justement, il veut libérer le free speech. Preuve en est que malgré les plus de 80 millions d'abonnés qu'il a, il se plaint quand même régulièrement de la censure de Twitter. C'est-à-dire que malgré les tweets qu'il envoie quand il traite un sauveteur de pédophile ou des choses comme ça, malgré les choses qu'il se permet de faire... Eh bien, mine de rien, il se plaint encore de beaucoup subir la censure. Donc, en fait...
C'est un peu l'épouvantail de l'extrême droite, d'une manière générale. Et par certains aspects, pas par tous, mais par certains aspects, il en est proche, ces aspects-là. C'est de se plaindre. Bah, on nous muselle, alors qu'on est repris partout et qu'on a ce mégaphone à disposition. C'est vraiment une mécanique qu'on retrouve dans ces courants-là, oui.
Et une dernière chose aussi que je voulais mettre en avant. Alors en vrai, moi, je suis assez... c'est pas que je veux faire le mec qui est très policé, très neutre et tout, mais j'ai vraiment du mal à me positionner, moi. J'aime beaucoup le côté où on fait bouger les choses sur Elon Musk. Je trouve qu'on a quand même besoin de certaines personnes qui ont des délires de dire « Tiens, on va aller coloniser Mars », tu vois. Même si c'est un petit peu fantasque, je sais pas si on y arrivera un jour. Mais je trouve qu'on a besoin des gens comme ça qui poussent la condition humaine la condition humaine, mais le développement humain à aller plus loin, quitte à ce que ce soit un peu bullshit. Mais en même temps, on peut pas ignorer que le gars, bon, bah, il est ce qu'il est avec sa vision d'homme le plus riche du monde, qui te donne peut-être un melon aussi gros que l'espace. Et le dernier truc que je voulais te mettre en avant là-dessus, que je trouvais intéressant en travaillant sur ce sujet, c'est que Elon Musk est devenu ce qu'on appelle un Citizen Kane aux États-Unis. Et donc, j'étais regardé ce que ça voulait dire. C'est un petit peu l'exemple. Et je trouve que c'est un Citizen Kane 2.0. C'est-à-dire que nous, en France, on a des Bolloré ou des Xavier Niel qui rachètent des médias et qui font aussi voilà, beaucoup polémique quand c'est des gens comme ça qui rachètent. Et j'ai l'impression que c'est un peu le 2.0 de ces gens-là, puisque eux, du coup, ils achètent des plateformes qui font du bruit. Voilà. Ouais. Donc, c'est intéressant.
Oui, non, mais il y a de ça. Et c'est différent de quand on voit Jeff Bezos racheter, c'est quoi, c'est le Washington Post qu'il a racheté. Je parlais de séparation entre l'argent et l'éditorial. Clairement, on a dans cette démarche-là une séparation qui est claire, même si, bon, on peut trouver problématique que des milliardaires rachètent des médias. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, dans cette hiérarchie-là. Il va avoir les mains dans le cambouis, etc. Et c'est marrant parce que il est évidemment une personnalité qui... c'est même pas une personnalité qui divise. C'est, je disais, le cult leader, comme on dit, le leader de culte. On a dans la chatroom là quelqu'un qui a créé un compte, je pense, rien que pour être dans la chatroom parce qu'il savait qu'on allait parler du sujet, qui est un petit peu dans cette démarche-là. Dans 500 ans, Musk sera compté comme le plus grand dirigeant de ce début de siècle. Alors, c'est possible, mais il y a les fans. Il nous dit, mon pseudo, c'est pied à l'envers. Très bien. Mais il y a, quand on est sur Twitter, gourou de secte, voilà, c'est une sorte de gourou. Quand on est sur Twitter ou partout ailleurs, quand on dit quelque chose sur Elon Musk, qu'on ose critiquer un petit peu, on se retrouve assailli des fans de Musk qui viennent vous agresser, vous engueuler, défendre leur gourou, etc. Donc, perturbant, c'est bizarre, quoi. Il y a quelque chose...
Mais après...
Excuse, je finis sur ce point. Je me souviens de cette vidéo des proches qui parlait de Francis Lalanne. Et vraiment, on est dans ce contexte, quoi. On n'est pas en train de partir dans des délires qui n'ont aucun rapport. Et des proches qui disaient, ah ouais, Lalanne qui est dans les stades pendant 6-7 heures et les gamins sont en train de lever les bras vers lui. Enfin, c'est bizarre, quoi. Il y a un truc de culte de la personnalité qui est dérangeant.
Ouais, mais tu vois, dans une moindre mesure, et je vais expliquer aussi mon propos, on retrouvait ça déjà quand même chez Steve Jobs, tu vois. Je trouve que c'est bizarre de faire ce procès-là à Elon Musk, où au final,
Parce que c'est un troll.
Oui,
tu vois,
et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est la différence entre un Steve Jobs et un Elon Musk. C'est que bon, bah, déjà, Steve Jobs n'est plus de ce monde, dans le monde dans lequel il est, et qui a beaucoup changé depuis sa disparition. Et que, mine de rien, Elon Musk, il a quand même un discours, ce qui cristallise aussi, quand tu regardes un petit peu tous les articles que j'ai lus un peu partout, que ce soit sur Numérama ou autre, tu vois quand même que le débat de fond aussi, c'est un peu la liberté d'expression. Il y en a pour qui c'est vraiment l'arrivée d'Elon Musk qui vend aussi cette liberté d'expression. C'est vraiment accueilli avec bienveillance, bras ouverts, on y va, on peut tout dire et on y va. Et tu as des gens qui sont un petit peu, je pense, dans le délire de la liberté des uns commence là où celle des autres finit. On se dit, oui, la liberté de tout dire, c'est bien, mais regardons des fois ce qu'on est capable de dire, les horreurs qu'on est capable de lancer, et certains ne veulent pas vivre ça. Ouais. Et ça peut se comprendre aussi.
Laetitia, tu as été très sage, tu nous as
très patiente, je ne vous ai pas coupé la parole.
Vous énervez, oui, bravo. J'ai pas l'habitude des gens qui sont polis. c'est surtout parce que moi, je ne le suis pas. Mais toi, tu le vois comment, du coup? Je crois que tu es un petit peu extérieur à ce microcosme de la tech, plus que nous. Comment tu le vois, tout ça, de ton côté?
Alors, moi, de mon côté, j'ai été extrêmement surprise par la rapidité des faits et de la chronologie. J'en avais parlé d'ailleurs dans mon podcast, dans le Café de l'e-commerce, et je l'avais classé dans la rumeur. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc, c'était début mars, fin février, où il y avait des rumeurs de rachat. Et finalement, ça ne m'a pas tant étonnée que ça, parce que pour moi, Elon Musk, alors tu le disais très justement, c'est un gourou, mais bien plus que ça, c'est quelqu'un qui œuvre depuis plus de 20 ans pour que ce monde numérique aille vite. Il faut rappeler qu'il est quand même à l'origine de PayPal. PayPal, c'est révolutionnaire dans le monde du paiement. Alors Tesla, qui l'a remis d'aplomb, qui l'a starifié, parce que ses produits sont des stars. Hein. Au-delà de lui, tout ce qui touche, ça devient... on faisait l'analogie avec Steve Jobs, c'est la même chose. Aujourd'hui, tout le monde, quasiment tout le monde a envie de conduire une Tesla. C'est un marqueur dans une société de conduire une Tesla. Et je pense réellement qu'il a... Alors, j'oublie SpaceX, bien évidemment. Alors là, pour le coup, moi, je n'ai pas trop compris la chronologie, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait les choses aussi à l'envers, puisqu'il a conquis l'espace avant même de conquérir la plateforme Twitter, même si c'est une arme pour lui. Généralement, on y va crescendo et le point ultime, c'est de conquérir l'espace. Lui, il a tout fait à l'envers. Et le pire, c'est qu'il y arrive. On oublie de le dire, c'est que il excelle, il fait les choses bien. Ce qui lui manque finalement, c'est d'obtenir sa plateforme. Mathieu le rappelait, à l'époque, on rachetait à tour de bras des publications, des magazines pour élargir sa zone d'influence. Moi, je pense que c'est typiquement ce qui lui manque dans son projet politique. Mmh. Il ne pourra jamais devenir président des États-Unis, mais il pourra mettre des gens au pouvoir. Et moi, je ne serais pas totalement... surprise que ça redevienne l'agora de Donald Trump, des QAnon, on n'a pas parlé, mais merci Twitter, enfin pas merci d'ailleurs, mais ça reste quand même la place pour pas mal d'extrêmes Twitter. Et tu le rappelais vraiment à juste titre, le fait qu'il soit très libertarien, ça c'est vraiment la zone d'ombre dans le personnage. Qu'est-ce que ça va devenir? On voit qu'il n'a peur de rien. Moi, j'ai été regarder ses nombreux tweets. Le mec s'adresse à la Terre entière avec le même ton, la même ironie et peut-être parfois les mêmes menaces. Il n'est pas exclu que demain, il continue à parler à Vladimir Poutine et puis qu'on soit vraiment dans la Troisième Guerre mondiale. C'est vraiment un instrument politique pour moi, ce rachat de Twitter. Et il l'avait dit, il l'a fait. Donc c'est là aussi où j'ai un peu peur. Là où tu vois Mark Zuckerberg, alors je suis désolée, à chaque fois que j'ai au micro, je parle de Mark Zuckerberg,
peut-être
un petit peu plus modéré, un petit peu plus aussi entouré. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a un cercle très restreint autour de lui et qui s'en fout en fait de tout ce qu'on lui raconte. Et puis surtout, il a cette obsession technologique qui le hante depuis le début. C'est aussi quelqu'un qui est obsédé par la jeunesse, qui a fait beaucoup de chirurgie esthétique. Et c'est pas anodin, c'est quand même quelqu'un qui a une lecture de notre monde actuel qui est quand même très différente.
Ouais.
c'est inquiétant.
Comme le dit Mathieu, on a besoin de gens comme ça aussi. C'est juste que lui, il est, enfin, c'est comme je le disais, c'est du 4chan, quoi. C'est la personnification de 4chan. C'est un shitposter. Il aime les mèmes et il s'en fout, tu vois. C'est le genre à aller dans une foule, je sais pas, dans un ghetto, à faire « tout est marrant, on s'en fout de tout ». Il tape sur l'épaule du mec qui se fait contrôler par la police tous les deux jours en disant « Ah, oh, mais c'est bon, on a le droit de dire ce qu'on veut ». Et puis lui, il retourne dans son jet et la réalité ne l'atteint pas, tu vois. C'est pas un mec qui vit dans la réalité.
C'est ça. Et puis surtout, ça peut mettre très à mal la démocratie parce que quand il n'y a plus de règles et que la liberté de marché ou d'expression n'a plus de règles, quand il n'y a plus de règles pour délimiter un temps de parole lors d'élections ou de choses comme ça, ça peut être une entrave et un risque pour la politique. Mmh.
Et ça profite aux extrêmes.
Exactement, et c'est ce qu'on a vu notamment lors de la prise du Capitole, qui au nom de la liberté d'expression, la liberté d'action, voilà ce que ça a donné. Bon, moi, j'ai pas très envie que Twitter devienne... Alors, ça l'est déjà, on peut pas le nier. Hein. C'est vraiment un outil politique, Twitter. Et c'est pour ça que j'ai très peur de cet outil et que j'y vais très rarement. Parce que l'agora te tombe dessus au moindre faux pas ou même pas sans un faux pas. Et lui, c'est ce qu'il a envie. Il a envie que ça devienne un joyeux bordel et qu'il n'y ait plus de règles contre le harcèlement. Toutes ces choses-là, tu vas en parler un petit peu plus tard, mais qui sont essentielles pour une bonne démocratie.
Je voudrais juste dire... un tout petit truc pour les gens, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller sur Twitter parce que cette peur, parce que c'est vrai que tout ce qui en ressort de Twitter, voilà, c'est ça. Non mais en fait c'est très intéressant parce qu'il y en a beaucoup autour de moi qui sont dans ton cas, mais en vrai Twitter, on en fait un peu, c'est quelque chose qu'on modèle un petit peu comme on le veut. Il suffit que tu soignes tes follows, ceux qui te suivent, des choses comme ça. Moi je trouve que moi ma timeline Twitter elle est très très saine là-dessus. Quelques dérives, mais franchement, en vrai, c'est à la marge. Et il faut vraiment le modeler à sa façon et ne pas subir l'envie d'aller cliquer sur le hashtag qui en ce moment remonte. Je pense qu'il faut maîtriser l'outil, en fait.
c'est possible pour certains types de personnes. Je peux te dire qu'il y a des gens qui peuvent essayer de modeler autant qu'ils veulent. S'ils ne sont pas en compte privé et qu'ils n'acceptent personne d'autre, ils vont se faire taper dessus et engueuler et avoir une expérience vraiment difficile. Et au-delà de ça...
Mais comme quoi, c'est possible, tu vois.
Ah, non, c'est possible pour certains, c'est pas possible pour tous. Je peux te dire qu'il y a
Il suffit
certaines...
de sécuriser ton compte.
Bah oui, oui, mais du coup, c'est plus Twitter. Du coup, si tu fais un compte privé, c'est plus tout à fait Twitter. Twitter, c'est un endroit qui est safe pour certaines personnes à utiliser comme Twitter. Sinon, il faut que tu te barricades, tu vois, et c'est plus la même expérience. Mais au-delà de ça, et on va peut-être conclure, parce que comme on le fait remarquer, ça fait déjà presque une demi-heure. Désolé. Mais la grande escroquerie de cette histoire de liberté de parole, c'est vraiment que l'extrême droite a coopté ce concept en disant « il faut nous laisser parler », mais ce qu'ils exigent, c'est pas juste « on veut nous laisser parler », c'est qu'on ne les alpague pas quand ils disent des choses qui sont inacceptables ou qui ont des conséquences réelles sur la société et sur le monde. Quand on parle de l'invasion du Capitole le 6 janvier, c'est des conseils. Ça a mis. On est passé très très près d'avoir une crise majeure politique, gouvernementale aux États-Unis. Quand je dis crise majeure, Donald Trump continue à dire, et une bonne partie de ses partisans croient, qu'il a gagné l'élection. On met en danger la démocratie, vraiment. Quand on parle du réchauffement climatique, plus on réussit à perturber ou à insuffler l'idée que le réchauffement climatique n'existe pas ou qu'il n'est pas causé par l'homme ou qu'il est causé par l'homme et que c'est trop tard, bah, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des exploitants d'énergie fossile qui ne veulent pas arrêter leurs exploitations et qui vont inonder les réseaux. Je donne ça au hasard, hein, mais c'est qui vont inonder les réseaux pour dire le réchauffement, pour brouiller les pistes. Et du coup, la conséquence, ça va être que les gens ne vont pas forcément avoir la volonté politique d'imposer les changements à ces gens-là. Et ça a des conséquences réelles. C'est pas juste toutes les idées sont bonnes à dire. Et voilà. Sur le Covid-19, pareil, la désinformation sur le Covid-19, ça a des conséquences réelles. Réelles. C'est des gens qui meurent. C'est pas, et au-delà de la difficulté de la crise, on a des conséquences réelles. Et le plus gros problème là-dedans, c'est qu'il y a cette idée un petit peu utopique et juvénile à l'échelle des réseaux sociaux qui dit « Ah bah quand on entend les idées inacceptables, elles disparaissent d'elles-mêmes ». Non, c'est ce que je disais moi il y a 5 ou 10 ans et on a constaté empiriquement, sans équivoque, que ce n'est pas le cas. Elles se répandent, elles ne disparaissent pas, elles se répandent et elles gagnent en popularité. Donc, le seul moyen qu'on a de ne pas avoir des gens qui vont prétendre que les vaccins ne marchent pas, eh ben, c'est de suivre d'en haut un consensus scientifique, pas juste l'avis d'une personne qui raconte n'importe quoi, un consensus scientifique, et de baisser la diffusion, par exemple, d'un tweet qui va prétendre le contraire. C'est le seul moyen qu'on a trouvé. Et c'est vraiment des problèmes existentiels. Donc maintenant, comme on le disait, il y a des lois auquel Twitter va devoir se plier. Et peut-être qu'on est en train de faire une tempête dans un verre d'eau parce qu'au moins en Europe, il y aura des lois et peut-être qu'elles seront adoptées aux États-Unis aussi. Mais dire que la liberté de parole n'a pas de conséquences réelles sur le monde, c'est juste... Alors, soit on est complètement en train de faire l'autruche et on a la tête dans le sable, soit on ne connaît pas ces choses-là parce qu'on ne les a pas suivies. Alors, moi qui suis ces choses-là depuis 10, 15, 20 ans, je peux vous dire que la trajectoire de gestion des réseaux sociaux a été la même partout pour tous parce qu'on a les mêmes conséquences partout. Et les idées nauséabondes et les idées dangereuses, elles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Au contraire, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on pensait. Ce n'est pas ce qui se produit. Elles se diffusent, elles se répandent et on a des vecteurs de diffusion de ces idées qui sont établis, qui sont Facebook, Twitter, etc. Alors peut-être qu'Elon Musk va s'en rendre compte, peut-être qu'il veut pas faire du mal au monde et qu'il va se rendre compte que c'est ça dans la gestion quotidienne de Twitter, mais le danger et le risque sont bien réels.
Patrick, je plus sois tout ce que tu viens de dire, et s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'en faisant l'acquisition de Twitter, il a une responsabilité. Tout comme il a une responsabilité en étant constructeur automobile ou en étant constructeur de fusées. Et j'espère, moi, que vraiment, au-delà de sa responsabilité de « je lance des tweets et je les assume parce que c'est ce qu'il dit », et puis il s'en fout complètement, j'espère vraiment que ça ira plus loin et qu'il sera conseillé autrement. Parce qu'il a maintenant une responsabilité vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis des gens à qui il s'adresse, et puis vis-à-vis des investisseurs. J'espère qu'il va vraiment, le saisir et que il va y avoir des règles, parce que sinon ça va devenir le petit jouet d'Elon Musk et Twitter perdra de son intérêt et deviendra une agora très nauséabonde. Et tu viens de le dire, il y a pas d'exception sur les réseaux sociaux. La haine est partout. Bien évidemment qu'on peut s'en prémunir, qu'on peut agir. Par contre, dès lors que ça devient l'acquisition d'un seul et même homme qui a décidé d'en faire un usage différent, là, effectivement, il y a inquiétude pour les usagers et effectivement la démocratie.
Écoute, je pense que JFK57 a la solution. Il dit « Patrick, président, s'il te plaît, j'en finis plus d'être d'accord avec toi, mais là, je le suis vraiment. Le patrixme reste la solution idéale à tous nos problèmes. » Donc,
est-ce qu'on peut rentrer dans ton gouvernement, Patrick?
Écoutez, non, mais ça sera plus simple. Il n'y a pas besoin de gouvernement, c'est moi qui décide tout. Donc, aucun problème. Vous voyez, c'est super safe, mon Patrick. Ouais, Mathieu, on va conclure avec toi.
Point rapide, ouais, c'est rapide de toute façon, parce qu'il y a un dernier sujet qu'on n'a juste pas évoqué, et pour le coup, on va balayer Elon Musk. C'est les employés de Twitter, parce qu'il risque d'y avoir un petit peu de mouvement. Je voudrais avoir quand même une pensée pour eux, parce que, mine de rien, moi, autant je suis assez 50-50 sur le personnage, donc vraiment, j'essaie... C'est pas pour me donner le bon rôle et tout ça, mais vraiment, j'ai du mal. J'ai lu sa biographie et tout ça, mais je sais qu'en termes de patronat, enfin de leader d'entreprise, c'est parfois pas facile de travailler. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert en travaillant avec lui, notamment chez Tesla, voire chez SpaceX aussi. Donc, petite pensée à eux. Et il y en a à risque de partir, juste pour ça aussi.
Si on veut parler de la manière dont il gère ses sociétés, on se rend compte que la liberté d'expression, elle a quand même ses limites quand son intérêt à lui devient est en danger. Il a très violemment réprimé des tentatives de syndicalisation au sein de ses sociétés et il a fait des choses qui n'étaient pas vraiment super respectueuses de ses principes de liberté d'expression. Donc comme souvent, c'est le genre de truc, le genre de grandes idées qu'on professe jusqu'à ce que ça nous affecte nous, enfin jusqu'à ce que ces gens-là soient affectés. Et là, tout à coup, quand on entend des employés qui veulent se syndicaliser, eh ben c'est « Ah non, 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 mais attendez, vous n'avez pas le droit de dire ça, au revoir messieurs, et voilà quoi. » Bref, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Clairement, je dirais qu'on a certainement des inquiétudes. On n'a pas beaucoup insisté sur le potentiel de Twitter, et clairement, il y a un potentiel, ça je ne veux pas qu'on l'oublie. Donc, c'est un élément qu'il faut souligner. Il y a un potentiel, il est possible qu'il prenne le réseau, et je ne suis pas en train de dire qu'il va le couler. Je suis en train de m'inquiéter sur la manière dont il va le gérer, mais il y a tout à fait un potentiel pour transformer Twitter en société aussi successful que... Enfin, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas autant de succès que Instagram, TikTok, Facebook. Il n'y a aucune raison. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc qui va se passer. Mais les inquiétudes restent. Et d'ailleurs, très rapidement, le DSA, c'est quoi ? C'est le Digital Services Act. On en a déjà parlé. Mais je veux le rementionner parce qu'il est quasiment acté, là. Il a été... en gros, il a passé une commission. Il va être voté au Parlement européen, il est à peu près certain qu'il va être acté. Et donc, en 2024, il sera implémenté dans les législations, normalement, les législations locales. Et c'est vraiment important pour les réseaux sociaux parce que le DSA, c'est le Digital Services Act, comme je le disais, qui vise à réguler les services en ligne. Si on veut résumer, je crois que c'est Thierry Breton qui disait ça, résumer la teneur du DSA, c'est qu'il veut faire en sorte que ce qui est illégal hors ligne soit également illégal en ligne. Et il y a toute une série de mécanismes qui font qu'ils essayent de mettre ça en place. Les domaines d'application, c'est par exemple le ciblage pour la publicité, on ne peut pas cibler selon certains trucs, genre religion, ethnie, etc. Pas de ciblage sur les enfants. Donc ça, il faut que les services le mettent en place. Pas de dark patterns, vous savez, ces éléments d'interface où on vous met le oui beaucoup plus gros que le non. C'est beaucoup plus subtil, hein, mais je schématise. Ça, c'est interdit. La transparence des algorithmes, ça, ça m'inquiète un peu, parce que quand les algorithmes sont connus, bah, on peut les exploiter, comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, transparence des algorithmes. Des mécanismes d'urgence. Ça, c'est un truc qui touche à Twitter, des mécanismes d'urgence pour la modération. C'est-à-dire que quand il y a des crises, eh bien, on a le droit de dire à tel ou tel réseau, bah là, vous devez modérer de telle ou telle manière, et bah, ça s'impose, c'est la loi qui impose ça. Il faut des options pour ne pas avoir de personnalisation dans les flux d'informations. C'est-à-dire des options pour voir un flux chronologique sans algorithme. Donc ça, c'est un truc qui est disponible, mais qui sera imposé désormais. C'est souvent disponible, ça a été souvent ramené ces dernières années. Et puis, les 6% d'amende, les 6% de revenus globaux d'amende pour des contraventions, des services qui ne respecteraient pas ces choses, c'est vraiment 6% des revenus mondiaux en amende. Évidemment, ça force les services et les services Internet à se conformer à ces règles-là. Donc, ce n'est pas encore en place. Hein. Comme je le disais, il y a encore un vote qui doit se faire au Parlement, qui va a priori passer. Puis après, ça sera d'ici 2024 que ça devrait être implémenté. Mais c'est un gros package de lois qui vise les services en ligne. Et moi, je pense qu'il y a 5 ans, alors il n'y a que les cons ou je ne sais pas, les gens intelligents qui ne changent pas d'avis, j'en sais rien, mais il y a 5 ans ou 10 ans, moi, j'aurais été très préoccupé par une série de lois de ce type. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont nécessaires et que l'Union européenne s'engage dans une voie de gestion de l'Internet qui me semble être le bon milieu. Une voie, moi, vous savez, je suis très neutre, je suis très au centre, qui me semble être le bon milieu entre ce qui se passe aux États-Unis où il y a une sorte de laisser-faire général, encore que ils sont influencés par l'Europe aussi, et puis ce qu'on voit en Chine ou en Russie où c'est totalitaire et complètement verrouillé. Et donc là, on dit, faut pas laisser faire les conneries, quoi. Vous avez une responsabilité, comme tu le disais, Laetitia, on a une responsabilité, et ben vous êtes tenu par la loi de prendre vos responsabilités. Voilà pour le DSA. Un mot peut-être sur ce sujet. C'était un gros sujet jusqu'à il y a 2 jours, mais je ne sais pas si Mathieu ou Laetitia, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus.
Oui, bah je me lance. Effectivement, tu viens de le dire, tout a pris des dimensions importantes, parfois même démesurées. Il y a 5 ans, moi, j'aurais été comme toi. Je me serais dit, bon, non, mais ce n'est pas le Far West, il n'y a pas besoin de réguler. Quoi. La réalité, c'est que oui, il faut réguler parce qu'on a des géants qui ont mis en place un Far West, bien en plus, parce qu'ils l'ont plutôt bien fait, qui nous a un petit peu... alors là, c'est vraiment le prisme du e-commerce, je suis désolée, c'est un peu ma déformation de formation.
Ah, c'est pour ça que t'es là.
Exactement. Ces géants sont arrivés avec leurs propres règles et c'est dur de leur dire non mais en fait là tes règles là, qui fonctionnent, qui sont successful, non on va toutes les démanteler parce que c'est pas bien pour l'utilisateur final. Tu fais des choses qui sont pas bien, qui sont pas saines. C'est dur quand on est e-commerçant d'entendre ça. Néanmoins, il faut souligner que cet acte, j'ai oublié le nom en français,
DSA,
en plus.
Le Digital Service.
DSA, il est quand même sous l'impulsion de la France. La France, depuis plus de 5 ans, elle œuvre vraiment pour que les GAFA, les GAFAM soient en conformité avec les lois européennes principalement. Donc, j'ai pas envie de saluer, mais j'ai envie de dire, bon, enfin, quelque chose accouche de tous les efforts de l'Union européenne et de la France. Donc sur ce point-là, bravo. Là où je suis un petit peu plus inquiète, bah, c'est sur tous ces petits, alors pas ces petits, mais les moyens et les petits e-commerçants à qui on en dit. On a dit, fais du dropshipping, fais du dark pattern, récolte de la donnée, c'est bien parce que comme ça, tu vas pouvoir connaître ton client, tu auras plein d'informations et tu vas pouvoir mieux cibler. Et là, aujourd'hui, on va leur dire, c'est terminé. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les grands, ils arriveront toujours à se baquer, à trouver des plans B. Mais les plus petits, qu'on a incité, et vraiment qu'on a incité même localement, il y a eu des chèques numériques qui ont été donnés pour développer les sites e-commerce de beaucoup d'artisans locaux, notamment pendant le Covid et après le Covid. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là? On va leur dire, bah, maintenant c'est fini, en fait, tout ce que tu as mis en place là pour bien cibler, pour faire du targeting sur des plateformes, ou aussi en matière de retail media, tout ce que tu as pu dépenser comme argent, bah, c'est pas que c'est terminé, mais en tout cas, on va mettre des lois. Et ton business, il va forcément en prendre un coup. Alors là, je suis persuadée. Et puis en plus, on parle d'investissement assez important pour les e-commerçants, les retailers. Et encore une fois, je n'ai pas envie de parler des plus grands parce que vraiment, eux trouveront toujours une parade et une solution parce qu'ils sont encadrés, parce qu'ils sont, ils sont conseillés. Mais les plus petits, je suis assez inquiète. Néanmoins, il faut souligner la rapidité de cette mise en place. C'est nécessaire. Il faut arrêter de prendre aussi le consommateur final pour un imbécile. Il a le droit d'être informé et il a le droit d'être aiguillé en toute transparence dans son parcours d'achat. Donc, je suis un peu comme toi, balle au centre, hein, c'est compliqué.
Mais faut forcer, tu te dis, bon, c'est peut-être pas plus mal, j'ai l'impression quand même.
Oui, exactement. Alors voilà, je vais le dire, c'est pas plus mal. Il faut de la régulation, pas à outrance. Mais il faut aussi penser à tous ces e-commerçants à qui on a forcé vraiment la main en leur disant « Mais développe-toi, il y a plein de choses qui sont possibles. Prends cette solution-là, tu vas voir, c'est facile. » Et maintenant, là, finito.
Alors effectivement, c'est surtout le RGPD qui va s'appliquer dans les cas que tu mentionnes, qui est une autre grosse initiative européenne d'ailleurs. Encore une fois, le fait de mettre les géants de la tech au pas, c'est un truc qu'on peut faire au niveau de l'Europe, qu'on ne peut pas vraiment faire au niveau de la France. Hein. Oui, on peut passer des lois en France, mais ce n'est pas du tout la même chose quand il y a tout le bloc européen qui passe quelque chose. Mais là, le DSA, le Digital Services Act, il s'applique vraiment aux géants de la tech. En gros, c'est les GAFAM. Parce qu'il y a des critères d'application qui sont genre, il faut avoir 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment sur les très, très gros. Il y a d'autres régulations qui s'appliquent à des plus petits, mais là, on vise les GAFAM. Donc, il faut le mentionner aussi, je l'ai peut-être...
Donc, c'est pas plus mal, alors.
Pas plus mal, très bien, super. OK, on a le thumbs up de Laetitia aussi. Mathieu, un mot sur le DSA ou avant qu'on avance?
Ah oui, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet et j'ai trouvé des choses assez intéressantes. En fait, il y a quand même, je trouve, une envie, mine de rien, pour essayer d'avoir l'esprit un petit peu plus loin que simplement vouloir juste aussi nous aider en tant qu'utilisateur, ce qui est très bien et ce qui est le rôle aussi d'ailleurs de nos élus, c'est ce qu'on attend d'eux. On sent quand il y a une volonté quand même du politique de reprendre le contrôle sur des choses qui les échappent. Voilà, c'est-à-dire que on sent que justement, depuis des années, on les sentait un petit peu démunis face aux GAFAM, et on le disait souvent, hein, qu'il y avait des sociétés privées qui commençaient à prendre un poids assez substantiel. Et ça, déjà, c'est une bonne chose, en tout cas, parce que eux, ceux qui prennent ces décisions-là, c'est des gens qu'on peut élire, donc qu'on peut aussi, justement, changer si ça ne va pas. Autre chose aussi qui est bien, c'est qu'on a une sensation aussi qu'on dépoussière des règles qui datent d'il y a au moins 20 ans et qui a montré ses limites, en remettant en place donc les GAFAM, en leur disant vous ne pouvez plus vous cacher derrière votre image d'hébergeur ou vous n'êtes responsable de rien. Aujourd'hui, on l'a vu avec les fake news, avec la désinformation, avec les discours de haine, etc. Et je pense que l'idée, c'est de dire aujourd'hui, ces plateformes-là, comme en même temps, en plus, elles modèrent, et pour moi, elles ont pleinement un rôle d'éditeur qui est très, très important. Donc, c'est eux qui agrègent les contenus. Donc, ils ont une certaine responsabilité. D'ailleurs, Thierry Breton aussi disait de manière très drôle sur un de ses tweets, il reprenait la phrase de Spider-Man, « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et je suis assez d'accord. Il y a des choses aussi qui me semblent très intéressantes. C'est la possibilité de faire des recours collectifs, justement. La possibilité, une chose très, très importante pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui sont justement victimes par ces choses-là, par exemple pour le harcèlement ou des choses comme ça, de pouvoir porter plainte dans la langue du pays, d'imposer à chacun de ces GAFAM d'avoir une plateforme en tout cas qui leur permet et de pas devoir aller jusqu'à Twitter aux États-Unis ou Facebook ou qui que ce soit d'autre devoir écrire en anglais.
On a ce genre de choses en France parce que c'est un gros marché, mais il y a plein de pays où tu dois le faire en anglais avec ils ont pas d'équipe locale, etc. quoi.
Tout à fait. Et en même temps, en tant que parent, je pense que tu seras d'accord avec moi, l'interdiction de la publicité ciblée pour les enfants. Ça, voilà, c'est un truc sur lequel je pense on peut que être d'accord. On sent d'ailleurs que ces lois-là, elles arrivent quand même, malgré que ça fait des années, je pense que le pivot qui a vraiment fait passer la seconde à justement la communauté européenne, c'est justement Frances Haugen, à qui il faut quand même rendre ses lettres de noblesse, qui a mis en lumière les Facebook Files. Mm-hmm. Je pense que ça a été très très important. D'ailleurs, il y a une des choses qui me fait un peu me gratter la tête sur les recours, enfin les règles mises en place par ce DSA. Bah merci. C'est l'obligation en tout cas des GAFAM de mettre un petit peu en lumière les algorithmes, justement, par rapport à ça.
La transparence des algorithmes, moi, ça me... Bon, je ne suis pas... Je ne sais pas comment mis en place. J'ai des questions là-dessus, c'est sûr.
Ouais, et d'ailleurs, je reprends ce que disait Frances Haugen à un moment, qui disait à un moment que Facebook ne comprend plus ou mal ce que font ses propres algorithmes et que son réseau social est devenu une machine difficile à contrôler. Donc c'est un truc qui me fait un petit peu flipper. Sinon, globalement, je pense que l'Europe a pas forcément aujourd'hui le moyen d'avoir son propre Google, ses propres services. Mais comment on peut démarrer en étant un petit peu le continent qui permet d'offrir des idées de régulation qui peuvent être intéressantes. Et je pense que les États-Unis vont pas mal s'inspirer du DSA, je pense, parce qu'eux aussi, ils y pensent beaucoup, en fait.
Bah, ils pensent à ce genre de choses de la même manière qu'ils se sont inspirés un petit peu du RGPD pour, dans certains États. Et... Pardon, Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, c'est ce que je disais sur le RGPD. On les a totalement inspirés. Et je te rejoins, Mathieu. Si les États-Unis doivent bien prendre exemple sur nous, c'est sur toute la régulation qui est mise en place. Alors, lentement, mais sûrement. Et tu l'as dit à juste titre, heureusement qu'il y a eu des Cambridge Analytica, heureusement qu'il y a eu des Facebook leaks, toutes ces choses-là. Parce que nos enfants sont très mal protégés des réseaux sociaux. Et c'est pas les plateformes qui vont s'en occuper, c'est pas leur job à elles. Donc il faut vraiment qu'il y ait un régulateur et européen qui s'en occupe. Et c'est primordial.
Et d'ailleurs, c'est très bien parce qu'on peut aussi avoir une pensée pour les lanceurs d'alerte qui eux aussi sont concernés par ce DSA, à qui on promet une meilleure protection. Donc voilà, ça va dans le bon sens.
Écoutez, la voix du milieu européenne, c'est vraiment, il y a une sorte de, je sais pas, de triangle ou de truc, et la balance, allez, une balance, et là, on penche pour quelque chose qui est sans doute nécessaire, puis qui va s'affiner au cours du temps, on imagine. Un autre truc qui est vraiment nécessaire, mais alors là, pour le coup, on parle pas de trucs triviaux comme la régulation des réseaux sociaux ou la politique aux États-Unis. Un truc qui est vraiment nécessaire, c'est le soutien des auditeurs sur Patreon. Là, c'est quelque chose de sérieux. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez décider pour une somme relativement modique, on va dire d'un euro, deux euros, de soutenir l'émission et de faire en sorte qu'elle existe sous sa meilleure forme. Et en plus de ça, vous pourrez avoir des bonus plutôt sympathiques. J'ai fait un petit édito. Alors, généralement, je parle de la manière dont était conçue l'émission ou de sujets importants. La semaine dernière, j'ai parlé de la pression, la difficulté d'être des parents d'enfants qui sont avec peu d'aide de la famille, des grands-parents. Je pensais que c'était un truc très personnel, presque cathartique. Et il y a plein de gens qui m'ont répondu « Oh Patrick, mais je comprends tellement, merci, je me sens pas seul. » C'était très drôle. Donc ça, c'est un édito qui était dispo la semaine dernière. Il y en a eu plein qui ont été faits au cours des dernières années. Et il y en a d'autres qui arrivent. Je me demande si je ne vais pas parler de la manière dont je gère, dont on pense aux invités, comment on invite les gens, à qui on pense, comment on gère. C'est un petit peu compliqué d'avoir les bonnes personnes au bon moment, d'avoir des personnes aussi qualifiées que les invités qu'on a aujourd'hui, par exemple. Et je vous parlerai peut-être de ça dans un édito ou d'autres choses. Mais dans tous les cas, vous avez, en étant patriote, vous avez les émissions sans pub, ça c'est quand même important, sans même ce petit laïus au milieu, sans cette petite promo au milieu. Vous avez des contenus bonus, les after-shows, les time codes sur les émissions, si vous voulez passer un sujet ou un autre. Et puis surtout, la satisfaction immense de contribuer à un créateur que vous appréciez, j'espère. On travaille beaucoup, on travaille très dur pour vous faire des émissions de qualité. Alors, parfois, on ne réussit pas à être aussi court qu'on le voudrait ou on est un petit peu plus énervé qu'on le voudrait. Mais j'espère que vous appréciez les émissions. Et puis, c'est ça un petit peu qui fait le sel de ces émissions, la particularité de ces émissions qui sont très différentes de ce qu'on a dans les médias traditionnels ou même de Twitch ou de YouTube, de ce genre de choses. C'est un format assez unique, le podcast. Donc, si vous appréciez ça, je vous encourage à mettre, je sais pas, le prix d'un petit café ou d'une barre chocolatée ou d'un sandwich dans le Patreon, sur patreon.com/rdvjeux. Et un grand merci à tous ceux qui le font et à ceux qui nous rejoindront et qu'on remerciera très chaleureusement dans l'épisode prochain. patreon.com/rdvtech. Dans les notes de l'émission, vous pouvez le faire là tout de suite ou en rentrant chez vous quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et patreon.com/rdvtech. Alors.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je vous propose qu'on parle maintenant du reste de l'actu. Je ne sais pas si j'ai mis le jingle pour les infos principales tout à l'heure. J'ai peut-être oublié l'émotion. Mais là, c'est Netflix. Et chez Netflix, messieurs, dames, ça ne va pas. Les choses sont dures. Reed Hastings a du mal à tenir sa société. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'annoncer, il y a une semaine à peine, que Netflix avait pour la première fois perdu des abonnés. 200 000 plus précisément. Ils ont perdu 200 000 abonnés et là, évidemment, tout s'est effondré au niveau de la bourse, au niveau des commentateurs, au niveau des analyses. Et c'est vrai que Netflix, c'est plus le joyau brillant d'il y a une dizaine d'années quand il révolutionnait les médias et les séries et les télés et que tout le monde voulait être comme Netflix. Le fait est que maintenant, il y en a plein des Netflix et il y a plein de problèmes chez Netflix qui font que les investisseurs, et on va être honnête, le public n'a plus autant confiance en l'avenir de Netflix qu'il y a quelques années. Il y a plein de raisons à ça. Il y a peut-être des choses que Netflix peut faire. Je pense que la conjoncture va rendre tout ça très difficile. Mais du coup, comme j'ai beaucoup parlé dans les explications à la base, je vais redonner la parole à Mathieu. Ça va plus du tout pour Netflix. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de ce bon Reed ?
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'action, elle a plongé en bourse, 33%, je crois, si je te dis pas de bêtises.
33% l'annonce, et il y avait déjà eu une grosse chute depuis le début de l'année. Je crois que c'est quelque chose comme 60% depuis le début de l'année. Donc, ça va pas très bien.
Alors, ils sortent quand même d'une période, on va dire, où ils marchaient un peu sur l'eau. Je parle du confinement, où justement, quand même, ils avaient justement engrangé beaucoup d'abonnés. Mais du coup, ils payent un peu beaucoup de choses, je pense. Je pense qu'ils payent le retrait en Russie, mine de rien, parce que le marché n'a pas de sentiment. Même si c'est une position courageuse et tout ça, le marché est ce qu'il est. Et je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a le problème peut-être du plafond de verre qu'a atteint Netflix. Plafond de verre qui pourrait quand même se briser. S'ils arrivaient, alors là, je le souhaite pas pour ceux qui le font, mais notamment pour ces fameux partages de code qui représenteraient environ sur 100 millions de foyers, je crois, c'est sur 175 millions d'abonnés, j'ai vu aux États-Unis, au Canada, Netflix estime qu'il y a 30 millions qui regardent sans payer. D'où cette idée que si tu sanctionnes trop fort, tu prends le risque que tout le monde te claque la porte. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme idée, c'est de faire payer un peu plus cher ceux qui font ce partage de code.
Oui, il y a le partage de mots de passe. Ils sont en train de faire un test en Amérique du Sud en faisant payer quelque chose, une petite somme, 1, 2, 3 euros, pour chaque personne supplémentaire qui est sur ton compte. Le truc, c'est que ça légitimise aussi la pratique, quoi. Si tu le fais comme ça, bon, peut-être que tout le monde a Netflix, mais certains arrêteraient de l'utiliser. Bon, peut-être qu'ils diraient qu'il faut faire partie de la famille, j'en sais rien. Il y a aussi cette idée qu'il a avancée d'avoir un abonnement avec pub, qui était une idée contre laquelle il était férocement, mais ça permettrait d'avoir un abonnement moins cher avec de la pub pour gagner d'autres types d'utilisateurs.
C'est aussi pour contrebalancer de départ qui était assez attractif au début et qui n'a cessé d'augmenter. On parle de quand même ouais. plus 13% d'augmentation, sachant que quand tu es peu tout seul sur le marché.
Depuis les débuts, je vais dire, enfin je ne sais pas, mais moi je me souviens avoir payé mon abonnement, je ne sais pas, 12-13 euros. Et là, il est à quoi, 16-17, quelque chose comme ça. Enfin, c'est voilà. hyper c'est important, quoi.
Et encore, quand tu es un peu tout seul sur le marché, ça va. Mais aujourd'hui, on a vu l'émergence d'un Prime Video, d'un Disney+. Et encore aux États-Unis, il y en a beaucoup avec HBO Max,
Disney, Paramount Plus, Peacock. Aux États-Unis, c'est le fleuri.
Il y a pléthore de plateformes. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un peu un trou plein de Netflix. Il y a des gens qui commencent un petit peu à être lassés, qui voient une baisse dans la qualité des contenus. Moi, je regarde pas assez Netflix pour justement juger, mais c'est un petit peu ce qui en ressort. Et tu vas m'en vouloir, tu vas me détester. Mais
vas-y, je me prépare.
Mine de rien, eh ben écoute, il y a Elon Musk qui a aussi tweeté sur le sujet et qui, mine de rien, qu'on le veuille ou non, je pense qu'il évoque aussi un courant de pensée qui existe, qu'il ne faut pas nier, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. C'est qu'il dit que Netflix fait un peu trop la drague au mouvement woke. Et du coup, certains. Moi, j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui commencent à être justement exaspérés par. Par cette manière de courtiser, d'essayer d'être dans la vague, en fait, puisqu'on le sait, en ce moment, c'est un petit peu le mouvement qui est un petit
Laetitia,
peu tendance.
Eux, Laetitia font... vient de s'abonner sur Patreon. Je dis ça, je... Merci Laetitia.
Merci Laetitia.
De rien. Au lieu d'aller sur Netflix, je vais préférer aller sur Patreon.
C'est ça. Est-ce que tout à coup, tu te sens mieux ? Est-ce que tu as un bien-être qui t'a envahi au moment où tu as appuyé sur le
Exactement.
Bouton ?
Exactement, ouais. Ouais. J'ai le sentiment d'appartenir à une communauté très éclairée.
Et ouais. Pour terminer, je te disais, voilà, il y a ce mouvement quand même. Mm. Encore une fois, on en pense qu'on veut, mais c'est un mouvement qui existe et qui représente un certain nombre de personnes. Et je pense qu'il y a ça. Et j'ai vu aussi qu'il y a des gens qui étaient très, très tristes, notamment des gens qui participaient dans Netflix sur la partie animation, qui, elle, s'est vue également des projets annulés, des choses comme ça, qui était d'ailleurs un des points forts apparemment de la plateforme, tout ce qui était les mangas, les animations. Ouais. Et du coup, il y a aussi une déception là-dessus. Voilà, c'est le panorama que j'ai vu en regardant le sujet.
Ouais. On nous dit, on évoque
2 millions de départs hein, au trimestre prochain. Aussi.
Pardon ?
Il y a aussi des investisseurs qui ont peur d'une fuite massive et on évoque 2 millions de départs au trimestre prochain. Ouais.
C'est très possible.
Des ressources humaines de Twitter, de Netflix, ouais. C'est trop bien.
On nous dit un chatroom, Netflix veut juste répondre aux envies des jeunes et de ne plus faire le même type de fiction avec des hétéros et des blancs par rapport à cette question de plateforme woke. Alors oui, je pense que c'est tout à fait possible et c'est le cas. Mais le fait reste, il y a des gens qui sont hermétiques à cette tendance sociologique qui est importante et qui est, à mon avis, assez salutaire. C'est vrai que Netflix, ils ont quand même beaucoup, beaucoup investi dans ce type de contenu. Et oui, du coup, ça peut-être moins plaire à d'autres. Moi, je crois que c'est peut-être un problème, mais s'il y avait beaucoup de bonnes séries, tout le monde s'en foutrait, que ça soit woke ou pas. Il y a des bonnes séries, mais c'est vrai, moi, j'ai beaucoup suivi Netflix, et évidemment, il y a les nouvelles séries, enfin, les nouveaux services qui sont un attrayant aussi, que ce soit Disney+, ou HBO, etc. En France, vous n'avez pas HBO, mais ça compte ailleurs dans le monde. Il y a OCS qui est un équivalent, ou Canal+, ce genre de choses, mais Le problème, c'est que Netflix, ils ont une approche de la production qui est très tech-centrique. Ils font des productions en fonction des algorithmes, et ça leur a beaucoup servi les premiers temps, mais le bilan, l'héritage de Netflix qu'on a aujourd'hui, c'est plein de premières bonnes saisons, dont les deuxièmes saisons se sont fait énormément attendre et qui tombent à plat. Et il y a des premières saisons qui sont souvent publiées en une semaine, enfin d'un coup, d'une journée, tous les épisodes dans la journée, donc ça fait énormément de bruit pendant deux semaines, et après tout le monde les oublie, et quand la deuxième saison arrive, bah, on en reparle genre une journée, et puis tout le monde les oublie. Et du coup, après, c'est supprimé au bout de deux saisons, quoi. Et c'est un cimetière, les séries de Netflix, de ce genre de choses. Il y en a quelques-unes qui réussissent à surnager, mais on est très loin de ce qu'on peut voir chez HBO, par exemple, où il y a des séries qui font, je dis HBO, mais il y en a d'autres, il y a des séries de super qualité qui sont publiées un par semaine, donc les gens suivent ça, ont le temps de s'y attacher, ont le temps de se souvenir de leur printemps avec telle ou telle série, et puis qui sont suivies sur 4, 5, 6, 7 saisons, on a le temps de développer une narration, de développer un attachement, de développer une légende sur une série. Sur Netflix, il n'y a rien. Alors, à part peut-être House of Cards, qui même eux, ils ont fait 3 saisons. Et puis bon, il y a eu les questions avec ce bon... Comment il s'appelle ? Bref, ce pas bon. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est l'une des seules. Peut-être Narcos à la limite, mais là, c'est pareil. Il y a 2-3 saisons. Donc, je crois qu'il y a un problème vraiment de leur cœur de métier, de production de séries télé. Ils sont mis à investir des milliards pour produire beaucoup, beaucoup de choses... et dont on ne se souvient pas, contrairement à ce que peuvent faire Disney ou Apple TV Plus même, qui montre une certaine un certain succès dans ces séries. Il y en a très peu, mais chacune est assez intéressante. Donc oui, moi je crois qu'il y a aussi un problème au-delà de la question de la tendance woke. Qui est, et je vois que dans la chatroom, on te le reproche un petit peu de le mentionner. Moi, vous savez bien que je suis plutôt dans ce mouvement-là, mais c'est indéniable. Netflix, il y en a beaucoup. Et donc, ceux à qui ça ne parle pas, eh ben, ils vont peut-être être un petit peu... ils vont arriver à saturation. Je le regrette peut-être, mais on analyse la situation de Netflix, on ne peut pas ne pas le noter. Je te soutiens totalement dans le fait que tu l'aies mentionné, Mathieu. Mais bon, alors, du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Peut-être, Laetitia, qu'est-ce que tu penses de la situation ? Est-ce que tu crois que ça y est, tout est perdu ? Ils peuvent redresser le navire ? Où on va ?
J'espère. Ouais. J'espère qu'ils vont réussir à redresser le navire. L'histoire de Netflix, elle est quand même basée sur « on prend notre temps ». On arrive marché par marché, on n'a pas un catalogue de folie. On a quelques petites créations Netflix, mais voilà, ils ont pris leur temps. Et puis, Covid est arrivé et c'est génial. Sauf que post-Covid, on n'a plus de création originale Netflix. Les gens se sont tournés vers d'autres plateformes, et tu l'as bien dit. Et ces autres plateformes-là, elles ont su créer du lien, elles ont su créer des rendez-vous. Un peu à l'ancienne, où tu attendais tous les dimanches ton film du dimanche soir ou la suite de ton feuilleton. C'est ce qui se passe hein, sur du Amazon Prime ou sur de l'Apple TV. Je pense notamment sur Apple TV, il y a eu, alors pas Apple TV, pardon, mais sur HBO, des phénomènes comme un peu Euphoria, où de toute façon, il n'y avait qu'un épisode par semaine et t'attendais et tu fermais ta bouche et puis t'allais sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passait, avoir des petites choses comme ça. Là où sur Netflix, on te balance tout d'un coup, tu binge-watches ça comme c'est pas possible et puis après, tu passes à autre chose. Donc, c'est vraiment de la consommation pure et simple. Il n'y a pas de lien qui est créé particulièrement avec Netflix. La chose que je vois vraiment avec Netflix, c'est qu'ils n'ont pas su créer un, le lien. Deux, quand il y a des opportunités business du type e-commerce, ils n'ont jamais su faire. Ils n'ont jamais su faire, même avec des grosses séries du type Emily in Paris, Bridgerton, ou toutes ces choses-là, où on a envie, certaines personnes ont envie de s'habiller, c'est marrant, c'est... réussi à faire avec Euphoria.
Ça va même plus loin à ce niveau. Il y a tout un aspect marketing qui est complètement absent de Netflix. Les séries, leurs grosses séries, on apprend qu'elles arrivent genre 3 semaines avant. Et puis, comme elles sont débarquées en une fois, elles disparaissent au bout de 2 semaines. Donc, alors que toutes les autres.
Une fois que tu as consommé, qu'est-ce que tu fais ? Tu passes à autre chose. Il n'y a plus d'histoire qui se crée, il n'y a plus de lien qui se crée. Et les autres plateformes ont réussi à faire ça. L'autre souci, c'est pas un souci, mais je pense que ce qui pourrait aider Netflix, c'est aller sur de la pub, tout simplement. Amazon Prime, ça te balance de la pub. Hein. Alors, et ça génère beaucoup d'argent, la publicité sur Amazon Prime. Pourquoi Netflix ?
Ça me fait peur ce que tu me dis là.
alors, moi, j'essaie de trouver des business models, mais en même temps, effectivement, ça fait peur, parce que c'est pas le corps modèle.
C'est ce qu'ils ont annoncé, abonnement moins cher avec pub, et il y en a d'autres qui le font aux États-Unis.
Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas staffé? Comment est-ce qu'on fait quand c'est pas le cœur de métier? Bon, là, peut-être que Mathieu aura une idée un peu RH, mais il va falloir recruter des bons, des très bons, pour pouvoir assurer un peu la survie. Et puis alors, bien évidemment, le catalogue, il va falloir peut-être le revoir et proposer des choses qui correspondent plus, j'allais dire auditeurs, mais non, à l'audience.
à l'audience.
Voilà, aux spectateurs. Donc il y a quand même des pistes d'amélioration, et puis copier ce que les autres font. Je vais revenir quand même sur HBO, qui quand même, pour moi, a un bon modèle, notamment sur la série Euphoria. Ils ont réussi à créer des ponts, ils ont réussi à créer du lien. Ce qui n'est pas possible encore sur Netflix, ils n'ont pas trouvé le truc. Et pourtant, il y a des produits d'appel, je pense à Sex Education comme série. Voilà, il y a des produits d'appel, mais ils n'y arrivent pas. Parce que ce n'est tout simplement pas leur business model de base. Eux, leur business model de base, c'était de mettre un catalogue et de vendre des abonnements. Et puis une fois qu'on avait atteint le nombre d'abonnements, voilà. Donc là, il va falloir peut-être créer un nouveau MVP, itérer, aller sur de la pub. Bon, c'est ce que je ferais, même si effectivement, on n'a pas envie de retourner dans la télé des années 90-2000. Parce que du coup, après, on sera dans la surenchère du spot publicitaire. Voilà, c'est un peu mon analyse.
Bon, tant qu'il y a un abonnement au moins qui reste sans pub, ça m'irait. Mais...
On est d'accord, voilà.
On demande dans la chatroom, Barbourdi, pourquoi pas investir dans les droits sportifs? Oui, c'est une piste, complètement. Alors, ça coûte très très cher, mais oui, ils pourraient totalement investir là-dedans aussi. On a vu qu'Amazon a réussi
Amazon l'a
à...
fait.
Oui, ils ont... c'était un contexte, un concours de circonstances presque un petit peu particulier. Pour les droits, c'est la Ligue 1, c'est ça
Et Roland-Garros, ils ont certains droits sur certains matchs de Roland-Garros.
D'accord,
aussi.
D'accord, bah aussi, oui. On voit que Netflix pourrait peut-être s'engouffrer dans la F1, etc. Mais tout ça, à mon avis, c'est du... Enfin, c'est pas leur cœur de métier, quoi. Ils prennent les mêmes sommes qu'ils ont dépensées ces derniers temps, ou même la moitié de ces sommes-là, et ils font des séries différemment, je pense qu'il y a de quoi se constituer un catalogue. Parce que beaucoup de gens pointent du doigt le truc de « alors, il n'y a plus Seinfeld, il n'y a plus Friends, il n'y a plus ces trucs-là ». Oui, c'est sûr que ça compte, parce qu'il y a c'est des trucs qu'on regarde et qu'on regarde. Mais HBO, ils n'ont pas... Ah si, c'est peut-être sur HBO maintenant, Friends, je ne sais plus. Mais enfin, pendant longtemps, ils ne l'avaient pas. Et ça ne les a pas empêchés de garder cette image très positive et cet attrait. Moi, je pense qu'il y a un moyen. Ils se sont trop engouffrés dans la production à l'algorithme, quoi. Et ça leur a beaucoup servi les premiers temps. Le binge-watching leur a beaucoup servi les premiers temps parce que c'était un truc différent. Tout le monde était dans l'exaltation de la série qu'on se bingeait en un week-end. Oui, mais maintenant, les temps ont un petit peu changé, donc il faut faire différemment. Et ils ont des séries bien, mais je pense à Ozark, qui est dans l'illustration de l'article que je regarde. C'est vachement bien, Ozark. C'est HBO-esque, mais bon, c'est très, très rare, ces trucs-là. Et il y a tellement de merde. Il faut avouer, hein, Netflix, il y a beaucoup de choses qui plaisent à... Il y a beaucoup de choses qui se regardent avec un téléphone allumé à côté, quoi. Et on surfe sur Twitter pendant qu'on regarde le truc d'un œil. Et ça, c'est ce qu'on avait à la télé pendant longtemps. Alors, quelques-unes, c'est peut-être sympa, mais il y en a beaucoup, beaucoup, donc...
Ça fait penser à Patrick Lelay avec sa citation « on vend de la publicité à du cerveau disponible ». Ouais, voilà, c'est ça.
Qui était très juste, d'ailleurs, ça en est beaucoup.
C'était moqué, juste,
c'est complètement juste.
Années 90, les temps ont changé.
Après,
il y a les jeux vidéo, d'ailleurs, vers lesquels ils se dirigent aussi. Je ne sais pas s'ils vont y arriver.
Voilà, c'est ça. Il y a Chocomogo qui le dit. Il y a Chocomogo dans le chat aussi qui m'a enlevé les mots de la bouche. C'est qu'ils sont en train d'essayer de faire un pivot sur le jeu vidéo. On va voir s'ils vont y arriver. On connaît Stadia. Hein. Donc, on ne sait pas. c'est pas acquis forcément pour tout le monde. Surtout que pour l'instant, ils ont quand même des titres mobiles. Bon, voilà, ce n'est pas non plus ce qui fait beaucoup rêver les joueurs.
On est au début.
Oui, voilà, mais on l'espère que justement derrière ils pourront un petit peu relever, on va dire, le catalogue là-dessus. Moi où je vous rejoins aussi également, c'est sur le côté il y a beaucoup de choses et peu de licences fortes. Moi d'après ce que j'ai compris, Apple, j'ai pas du tout Apple Plus, mais il y a moins de contenu, mais beaucoup vantent la qualité.
Ouais.
Et je pense que c'est un peu ça qui s'est perdu. Netflix est un peu devenu le fourre-tout de plein de choses et ça manque de licences fortes qui en ressortent. Je sais pas si c'est eux qui font The Witcher d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Mais ça n'a pas pris tant que ça. C'était censé être le Game of
Ah
Thrones
non, mais
et ça n'a pas pris. C'est bien,
et
mais ça
puis
parle plus aux fans, quoi.
ouais, c'est ça, et c'est sympa, hein. Moi j'ai regardé, c'est marrant, mais déjà la
Oui,
deuxième
moi
saison, il
aussi.
y a une baisse de qualité substantielle par rapport à la première, et puis c'est pas un produit qui est de super qualité, enfin c'est pas Game of Thrones du tout, c'est même si même Game of Thrones c'est a fini par se perdre, mais c'est vrai que cette tendance qu'on a chez Apple TV Plus et un petit peu chez HBO, même si c'est leur cœur de métier, donc ils produisent plus, ils ont chez Apple TV Plus quelques séries, mais elles sont toutes de super qualité ou presque. Il faut noter aussi quand même que tous ces autres géants dont on parle, Apple et même HBO parce que c'est Warner et Amazon Prime Video, eh ben ils ont un autre business principal sur lequel s'appuyer, ou au moins un autre business dans le cas de Warner. C'est pas tout sur le streaming de séries. Netflix, c'est ça et c'est tout. Alors que, et donc l'enjeu est plus important, et donc peut-être que ça change la manière de produire, etc. Mais tous les autres, c'est des énormes conglomérats. Donc il y a ça doit jouer quand même dans la manière d'approcher les trucs.
Et il y a encore un élément juste pour terminer avec Rujan 666 où je pensais exactement pareil que toi. Il y a Amazon qui n'a pas abattu toutes ses cartouches et qui a une série comme Lord of Rings
Oui.
qui arrive. Ça, tu
Lord of
vois,
the
je veux dire,
Rings, ils
voilà.
ont investi en tout quelque chose comme 1 milliard dans la série. Et tu vois, Amazon, pardon, Netflix, ils dépensaient combien? Ils dépensaient quelque chose que de ridicule. Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est genre 13 milliards par an, un
10 ou
truc
100
comme ça.
000. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est complètement ridicule. Tu vois, 13 milliards, bon, tu n'es pas obligé de faire 13 séries à 1 milliard, mais tu n'es pas obligé de faire non plus 160 séries à 12 centimes, tu vois. Et
C'est ça.
j'exagère, ce n'est pas du tout ce qu'ils font, mais on se comprend.
Non. Mais du coup, ils ont des licences fortes, tu vois. Alors, ils vont
Ouais,
essayer, je
c'est
crois,
vrai.
avec The Last of Us, tu vois.
Ah, The Last of Us, c'est
Mais.
HBO.
Ah, c'est HBO, bon, rien à
Ouais.
voir. Bon, ben, voilà. Mais
Donc.
encore une fois, tu vois, Netflix, il leur manque un truc, voilà, sur lequel ça va marquer ou ça va accrocher. Comme un Star Wars, tu vois, Disney+, aujourd'hui, c'est ouf parce que Marvel, Star Wars, ils ont un catalogue franchement, Disney, ils vendent de l'abonnement quasiment que sur ces deux licences-là, quoi.
Ben complètement. Le reste, c'est du bonus. Et, enfin bon,
Voilà.
Disney aussi, mais le truc avec Netflix, c'est que pendant 10 ans, ils auraient pu créer des licences fortes. Aujourd'hui, on en retient quoi des licences créées par Netflix? Franchement, alors on se souvient de House of Cards parce que c'était à l'époque la première, plus ou moins. Il y a Orange is the New Black. Il y a même un exemple qu'on peut prendre, c'est Russian Doll. Russian Doll. La première saison a fait beaucoup de bruit pendant 2 semaines, puis la deuxième saison vient de sortir. Oh, il y a quelques personnes qui ont dit « Ah ouais, c'est vachement bien, ok. » Voilà, et puis c'est terminé. Et je me dis, quand on pense à The Last of Us, qui est une grosse licence de jeux vidéo, monde apocalyptique, enfin un potentiel intéressant, HBO, je peux tout à fait imaginer une saison 1 super léchée qui va s'étaler sur 10 épisodes, 6-10 épisodes, quelque chose. On va la suivre semaine par semaine. La saison d'après, bah, ça continuera, à moins que ça se plante évidemment. Mais la saison de Netflix, la même chose sur Netflix, je l'imagine un peu plus cheap, un peu plus justement contrôlé par l'algorithme. Et puis après la première saison, bah, on l'oublie un petit peu. Il y a tellement de temps jusqu'à la deuxième. Et la deuxième, l'apprécie un petit peu moins. Puis au bout de la troisième, il l'annule. Parce que c'est un truc qui ne plaît pas, enfin j'en sais rien, les mystères des décisions de Netflix. J'ai du mal à penser à des saisons produites par Netflix qui ont fait plus de 2 saisons, enfin des séries qui ont produites par Netflix qui ont fait plus de 2 saisons.
Ouais, par exemple, tu prends même un AMC, eh ben, t'as Walking Dead, qui est encore, tu vois, même si
Ouais.
aujourd'hui c'est un
Bon,
peu
c'est
la
plus
pente
aussi bien du
descendante,
tout.
hein, mais c'est plus aussi bien. Mais c'est, tu vois, comme tu disais, Netflix, on a du mal à retenir,
Ouais.
voilà, un gros
Bah,
truc qui.
ouais, il y a quand même des Squid Game, des Casa de Papel,
Oui, c'est vrai,
des
c'est
Sex
vrai.
Education. On en a en
Oui,
fait,
bien
mais
vu.
finalement, ils sont vite oubliés. C'est ça la
Ouais.
réalité.
Bah oui, c'est ça.
C'est des produits d'appel qu'on va binge-watcher et puis ça va tomber quoi, comme un couperet une fois qu'on aura passé 3 jours à
Ça.
regarder ça.
Et puis, Casa de Papel, j'ai pas l'impression que les saisons, au-delà de la saison 2, aient fait beaucoup de bruit. Squid Game, il y a eu une saison, ça a fait beaucoup de bruit pendant 2 semaines. On verra ce que fait la deuxième, mais pareil, moi je crains que machin. Mindhunter, la première saison complètement incroyable. Deuxième, je crois que j'ai regardé un épisode. Mais la première, c'était fou, c'était super bien. Deuxième, j'ai regardé. Je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi, mais il y a une alchimie qui ne prend pas avec les productions Netflix au-delà d'une ou deux saisons, quoi. Bon.
Ce qu'on peut retenir aussi de Netflix, c'est qu'ils ont quand même beaucoup œuvré pour des productions locales. Moi, j'ai découvert des séries italiennes que j'aurais jamais regardées ou des séries Squid Game, j'ai jamais regardé parce que vous aurez compris que je suis la violence, c'est un petit peu compliqué. Twitter, castagne. Tout ça, la castagne. Alors, j'aime bien la castagne en vrai peut-être, mais pas à l'écran. Ça a mis en œuvre, alors je n'ai pas envie de dire du cinéma, mais ça a mis en lumière des œuvres beaucoup plus locales qu'on n'aurait jamais eu accès en temps normal. Et alors moi, mon intuition, c'est que Netflix, il faudrait que ça devienne un peu un canal de l'époque, avec des vraies créations originales, des vraies incarnations, un ton décalé peut-être, un vrai parti pris sur, je ne sais pas, moi, on évoquait le wokisme, des choses comme ça. L'identité de Netflix, elle est assez terne en réalité. C'est une plateforme de streaming et puis c'est tout. Voilà. Si tu veux aller chercher des choses engagées, tu vas ailleurs en fait. C'est pas sur Netflix que tu vas trouver des choses. Quoique si, il y a quand même des bons documentaires aussi. L'aspect documentaire est pas mal.
Ouais, il y a des documentaires bien, mais même... Enfin bon, bref, on commence à tourner en rond. Mais on évoque Stranger Things aussi dans la chatroom. Oui, bien sûr.
Oui, c'est
mais
vrai.
Bon, voilà, pareil, c'était... Moi, je regarderai la fin avec plaisir, la dernière saison. Il y avait... quelqu'un d'autre a mentionné autre chose, j'oublie. Bref, bon. Netflix, on verra où ils en sont. Là, ça a l'air d'être un petit peu la fin de la fête chez Netflix. Il va falloir s'y atteler très sérieusement.
La fin de la réclée.
C'est ça. Dernière chose que je voulais évoquer, c'est les iPhone 14. Allez, on reparle un petit peu de... Ah oui, entre parenthèses, CNN Plus, dont je découvrais l'existence la semaine dernière, le service d'abonnement à CNN, va être interrompu le 30 avril, après un mois et demi, après le lancement. Bon, il y a une histoire de rachat qui s'est fait, donc les nouveaux ne voulaient pas du truc, et donc ils le ferment. Mais je pense qu'on a battu le record du service lancé et arrêté le plus rapidement de l'histoire. Un mois et demi pour un gros truc comme CNN, c'est quand même... Donc, comme quoi, il y a beaucoup de concurrence, et ou alors CNN Plus, ce n'était pas forcément une bonne idée. iPhone 14. Alors, on revient dans les gadgets. Voilà, il y en aurait eu un petit peu quand même. On a des rumeurs assez précises sur ce que seraient les nouveaux iPhones, la gamme complète. Je vais vous résumer ça. Il y a d'abord 4 appareils, comme pour le 13, sauf que au lieu d'avoir un 14 mini et 14 normal, on aura un 14 normal et un 14 max, qui ne sera pas un Pro Max, mais donc un format normal et un format grand format pour le téléphone entre guillemets normal. C'est marrant parce que beaucoup de gens réclamaient des mini et visiblement, il ne se vend pas bien du tout ou pas assez. Et donc, ils le sucrent au profit d'un format plus grand. Et il y a aussi 2 modèles Pro, donc 2 modèles normaux et 2 modèles Pro, normal et donc Pro et puis Pro Max, donc format taille d'écran normal et puis taille d'écran plus importante. La chose qui sera différente sur tous les modèles, ça sera a priori non plus d'encoche en haut avec le Face ID, mais 2 petits poinçons, un allongé et un à côté, qui auraient le Face ID et la caméra à l'intérieur. Et... pour les modèles Pro uniquement, on aurait un processeur A16, donc qui serait le nouveau processeur. Le A15 de l'année dernière resterait dans les modèles normaux, mais une évolution pour les modèles Pro avec le processeur A16. Une caméra principale, un objectif principal de 48 mégapixels, donc quelque chose comme 4 fois plus que ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et puis... une connexion satellite pour des messages d'urgence. Ça ne serait pas pour téléphoner, juste passer les appels normaux, mais si on n'a plus de réseau, on aurait une connexion satellite qui sera évidemment hyper utile pour les gens qui ont besoin professionnellement d'un iPhone. Quand ils seront perdus au milieu de la jungle amazonienne, et ben ils auront la possibilité d'envoyer des SMS. On le sait bien, c'est pour ça que les gens achètent leur iPhone Pro. Donc voilà pour les rumeurs sur les nouveaux iPhone 14 qui arrivent cet automne. Vous allez vous précipiter dessus, je suis sûr. Toi, Mathieu, évidemment, hein, c'est iPhone avant tout, je le sais bien.
J'en achèterai un de chaque.
Parfait. Bah écoutez, j'ai l'impression
tu pourras m'en donner un, s'il te plaît. M'en offrir un, s'il te plaît. Parce que moi aussi, je suis très, très Apple.
Avec moi, tu... Ah bah moi, c'était complètement ironique, hein, Patrick.
Ah d'accord, ok.
Il est très Android, Mathieu.
J'ai dit, oh, mais à l'envers.
Moi, je suis pas du tout, je suis pas du tout Android, je suis plutôt Apple, et il y a une vraie addiction qui a été créée avec la marque.
C'est bien dommage.
Mais oui, et je sais.
Il y avait une belle alchimie entre nous là. C'est dommage.
Et tout d'un coup, ça s'évapore. C'est intéressant de noter quand même cette différence entre les modèles normaux et les modèles pro, parce que les modèles normaux, bah, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de différence avec les iPhone 13, quoi. C'est des trucs qui vont être très superficiels. Même le processeur, alors, processeur, on n'exploite pas du tout sa puissance, hein, et depuis longtemps, donc même avec un modèle d'il y a 3 ans, ça fonctionne toujours très bien. Mais du coup, artificiellement, il semble qu'ils vont augmenter la valeur des modèles pro en mettant le processeur, en lui réservant le processeur plus récent. C'est quand même un petit peu. Alors, c'est pas de l'escroquerie, mais c'est très artificiel, je trouve, cette séparation. Alors que traditionnellement, bah, l'iPhone classique bénéficie du nouveau processeur de l'année. Là, ça sera pas le cas. Et du coup, quel intérêt d'acheter le processeur, enfin le modèle normal, bon, à moins que vous changiez de téléphone tous les 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, évidemment, auquel cas, même le processeur de l'année dernière sera intéressant. Toi, il date de quand ton iPhone, Laetitia ?
2 ans.
2 ans ? Est-ce que tu vas changer ?
2 ans. J'ai le sentiment d'être déjà à la ramasse, tu vois, alors qu'il est très performant, il n'y a pas de souci. Mais exactement. Ouais, mais, quand tu as une addiction et à la marque, et je le dis très réellement, tu t'en fiches, hein, des fonctionnalités. Ce que tu veux, c'est le dernier modèle à la mode et c'est nul, je le sais. Mais voilà tout ce que Steve Jobs a réussi à créer et que Netflix n'arrive pas à créer.
Donc 2 ans, c'est le temps que t'autorise ton addiction. Et tu vas donc ajouter du déchet dans la nature et contribuer au réchauffement climatique. Juste
non,
pour
non,
pouvoir
non.
Voir.
J'attends. Et alors, pour le coup, je regarde beaucoup ce qui est fait de manière reconditionnée. Voilà. Alors, déjà, il y a une barrière à l'accès, c'est le prix. Ça coûte extrêmement cher. Enfin, dépenser un SMIC dans un téléphone, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a jamais eu de sens d'ailleurs. Mais l'impact de la marque, enfin, vous savez que moi parfois je rêve que je vraiment, et c'est un vrai rêve et je pense que tout le monde va se moquer de moi, mais que j'ai entre les mains un vieux téléphone, donc souvent c'est un Android, et que je ne sais pas m'en servir, et genre je suis dans une situation d'urgence et je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, parce que c'est ça la réalité, je ne sais pas utiliser autre chose qu'un outil Apple, et c'est nul, c'est critiquable à merci, et l'impact de cette marque sur moi est terrible.
Tu m'as enlevé les mots de la bouche.
Voilà. Je vais te rassurer un petit peu. Si tu veux acheter un iPhone tous les 2 ans, écoute, c'est pas ça qui va. Il y a des choses importantes à faire. Oui, il faut éviter. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour réduire notre empreinte carbone et éviter de surconsommer. Et si c'est le truc qui te fait plaisir et que tu es, tu vois, c'est ton petit vice.
Et je suis mignon, ouais.
Je pense. Quelle indignité, nous dit-on. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un excellent moment passé en votre compagnie. Je pense donc qu'on va conclure cet épisode. Mais avant de conclure l'épisode, il faut bien sûr que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur Internet. On va commencer avec Laetitia. Où es-tu sur Internet ?
Alors, pas Twitter. Alors, j'y suis, mais malheureusement, je suis beaucoup trop peureuse pour rester sur Twitter. En revanche, sur LinkedIn, qui reste mon canal principal de connexion. Et puis, bien évidemment, le podcast Le Café de l'e-commerce, disponible sur toutes les plateformes. Pas de streaming, mais de podcast.
Parfait, merci beaucoup Laetitia. Donc Le Café de l'e-commerce, vous cherchez ça dans votre application de podcast et vous le trouverez très facilement. Mathieu, où te trouve-t-on, toi, sur Internet ?
Eh bien, ça va faire plaisir, on finira là-dessus. On peut me trouver sur le réseau social d'Elon Musk, Twitter.
Mais le pire, c'est que c'est vrai. Le pire,
c'est que
Mathieu,
c'est vrai.
C'est que
et
c'est
on
vrai,
en rigole, mais c'est la réalité.
Ouais, j'ai tweeté, je crois quand il y a eu l'annonce, j'ai tweeté, voici le premier tweet qui appartient à Elon Musk. J'ai mis un hashtag NFT et tout, on sait jamais, tu vois.
C'est ce que j'allais te dire. Allez, il faut te mettre dans la blockchain, NFT,
voilà,
tout
c'est ça.
Ça
c'est ça, on sait jamais. Sur un malentendu. Ouais, voilà, c'est à at Matt Dos Santos, M-A-T-H Dos Santos, D-O-S-S-A-N-T-O-S, et pas D-E, comme je le vois chez certains qui l'écrivent. Vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube, sur la chaîne Restez Connectés, et également sur Twitch, sur la chaîne ETR underscore FR, où là, pour le coup, on parle, nous, plutôt de réalité augmentée, réalité virtuelle, toutes les technologies immersives, si c'est un truc qui vous botte. C'est un truc que j'espère un jour pouvoir échanger avec Patrick passionnément. Je rêve d'un jour de pouvoir qu'il m'invite pour lui montrer à quel point c'est bien la VR et la R. Voilà, c'est
mon nouvelle. On fera peut-être un épisode spécial à un moment, Yorick.
Écoute, il y a pas mal de monde sur le chat qui est venu et qui font partie de la team ETR. Donc, si tu veux un petit peu des gens qui sont assez passionnés par ça et référents, n'hésite pas, on sera ravis d'échanger avec toi là-dessus.
On se fera ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi et merci beaucoup à Laetitia. Les liens seront dans les notes de l'émission. Et puis, pour ma part, vous le savez, c'est notepatrick.com pour tous les liens. Si vous voulez participer au live, le lien vers Twitch est sur notepatrick.com. Bon, c'est notepatrick, donc c'est pas difficile. Le lien vers le Discord est aussi sur le site. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour les discussions, c'était super. C'est toujours des moments super sympathiques et des communautés sympathiques dans lesquelles évoluer. Et bien sûr, si vous voulez participer au Patreon, patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission aussi, vous pouvez redevenir un sponsor de l'émission, vous pouvez contribuer à son financement et avoir des bonus et le plaisir immense, intense de faire partie des Patriotes. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font déjà. On se retrouvera dans une semaine. J'espère que Elon Musk n'aura pas encore acheté un truc, parce qu'à un moment, ça commence à bien faire de parler de lui toutes les semaines. Donc, on essaiera de faire un épisode 100% sans Elon Musk. J'espère qu'on y arrivera. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine. Grosse bise à tous et à toutes, et passez une bonne semaine. Rendez-vous jeudi si vous écoutez le rendez-vous jeu, hein. C'est toujours une excellente idée. Mais si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.
Au revoir.
Ah, il faut que j'appuie ici. On le refait. Attention, ciao à tous. Non mais fallait que tu dises au revoir, Laetitia.
Au revoir. Tout... Ok. En même temps.
Ok. Ciao, alors, ciao. Un, deux, trois. Allez, on y va. Ciao à tous.
Ciao. Salut. Au revoir. Merci. Ciao.
Pas de bol qui me fait peur. Elon Musk rachète Patreon. Non.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.